Je vais fermer, bonjour. Bah oui, dit 15h, quelle précision.
France Culture.
C'est pas un carnet avec des notes, c'est les carnets où je mets mes interventions au fur et à mesure.
Vous travaillez pas à l'ordinateur?
Pas pour ça, parce que je veux garder justement la chronologie.
Le Book Club.
Ah, c'est génial, c'est un journal de vos...
C'est-à-dire, je mets mes conférences dessus, et comme ça, c'est très très facile de retrouver ce qu'on a fait.
Dans la bibliothèque de Geneviève Fraisse.
C'est formidable.
C'est vachement pratique.
C'est extrêmement organisé.
Je devrais breveter mon truc.
Mathilde Wagman.
Savez-vous qu'il faut profiter des derniers jours de soleil, car la pluie revient?
Dans l'introduction d'un ouvrage paru en 2023, merveilleusement intitulé « Le féminisme, ça pense », dans lequel vous retraciez votre parcours intellectuel, Geneviève Fraisse, vous racontiez l'une des grandes décisions qui fut la vôtre pendant vos études de philosophie, vous mêler de ce qui vous regardait, vous, à savoir cette émancipation des femmes, pas plus réalisée effectivement il y a 50 ans qu'aujourd'hui, écriviez-vous. Partant de là, donc, un parcours de philosophe dédié aux problèmes qui sous-tendent cette question de l'émancipation. Que vous vous intéressiez à la différence des sexes ou bien avant que ces termes n'occupent le devant de la scène aux notions de consentement ou de genre, c'est toujours en les replaçant dans une historicité, une généalogie, autrement dit dans un mouvement. Qui vous lit sait, Geneviève Fraisse, que l'un de vos outils privilégiés dans cette démarche, ce sont des textes d'autrices, auteurs, penseuses, penseurs du XVIIIe siècle à nos jours qui ont initié, construit cette dynamique de pensée féministe dont nous héritons. Tous vos ouvrages sont en ce sens des ouvrages de lectrices très profondément tissés, nourris, bâtis avec, par, dans la fréquentation des livres. De là, pour nous, l'envie de vous demander de nous ouvrir les portes de votre bibliothèque et même d'en tirer quelques ouvrages que vous avez eu la gentillesse de sélectionner pour les partager avec nous aujourd'hui. De Chauderlot, de Laclos à Deleuze, de Germaine de Staël à Monique Wittig, on y trouvera cette dynamique, ce mouvement, cette énergie, en un mot peut-être, cette joie à penser. Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté, d'avoir amené un petit peu de votre bibliothèque dans notre studio. On a recouvert la table de quelques livres. On va faire comme si on était chez vous aujourd'hui. Je le disais, l'envie de vous proposer cet exercice est née, entre autres choses, de la présence constante des lectures, des textes dans vos livres et tout singulièrement dans le tout dernier paru qui s'appelle « L'égalité sans retour » et qui est un recueil aux éditions du CNRS et qui est un recueil de... texte qui concerne ces auteurs qui vous accompagnent depuis les débuts de votre parcours intellectuel, de Olympe de Gouges à Stendhal, en passant par Chauderlot, de Laclos, et on va y revenir tout à l'heure, puisque certains de ces auteurs figurent aussi dans les textes que vous avez choisi de partager avec nous aujourd'hui. Mais dans cette émission, Geneviève Fraisse, tout commence toujours par le portrait de nos invités en tant qu'ils sont précisément des lecteurs, des lectrices. On leur dresse comme ça un petit questionnaire qui nous permet de les découvrir de cette façon. Je vous adresse la première question rituelle de ce questionnaire. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage, auprès de qui peut-être, vous avez appris à lire?
Surtout dans les petites classes. C'est parce que je suis allée plutôt à 3 ans dans les petites classes du jardin d'enfants, de ce grand lycée Marie Curie. Et je pense que c'est là que j'ai appris à lire, mais aussi à regarder les images.
Si tôt que ça, dès 3 ans, l'apprentissage de la lecture?
Non, mais oui, enfin oui, parce qu'il y avait des mots sur le tableau. Je me souviens même du mot, c'était le mot renard. Et finalement, dans renard, il y a un D à la fin, ce qui est incompréhensible pour un enfant.
Oui, ce qui
voilà,
fait
vous avez la réponse.
Des incongruités du français. Est-ce que vous vous souvenez, dans ces premières années, à quelle sensation était associée la lecture pour vous? Est-ce qu'on vous lisait
Non, c'est moi qui lisais.
Vous lisiez toute seule?
C'est moi qui lisais. J'ai vu ça dans des fiches qu'on m'a données de cette période-là, lors d'une investigation mémorielle. Et non, je lis. Et je dis même que c'est l'activité que j'aime le plus.
Et vous lisez?
Je m'en souviens pas, mais c'est vrai. Si je l'ai écrit, c'est que ça doit être vrai.
Et vous vous souvenez un petit peu de lectures qui auraient marqué comme ça ces premières années dans l'enfance?
Ouais. En fait, il y a deux. Mais ça anticipe sur la suite. C'est, je me souviens de ce titre, Le pays où l'on n'arrive jamais. C'est le mot jamais évidemment qui compte. Donc je vais lire, mais j'arriverai jamais au pays.
C'est quoi le pays où l'on n'arrive
jamais? C'est André Dautel, voilà. Et puis je me souviens aussi d'un signe de piste qui m'a terrorisée. Ce qu'on appelle la tache de vin, Et parce qu'il y avait deux fins possibles, disait l'auteur à la fin, qui s'appelle Serge Dalens, et qui dit, donc ça je suis petite, hein, c'est les scouts, etc. Il dit, voilà, il y a deux solutions, ce petit garçon il va très bien, il est sorti d'un problème, il avance dans la rue, maintenant vous avez la possibilité de lire une fin ou une autre. Et la première fin c'est, il marche, il est heureux, et bim, une voiture le renverse et il meurt. Et ça, c'est un choc que je n'ai jamais accepté, qu'un auteur puisse me faire un truc pareil. Voilà. Donc c'est plutôt la rébellion qui commence avec avec cette erreur, hein, je trouve, de l'auteur de ces classiques du scoutisme.
L'un des premiers souvenirs de lecture, du coup,
c'est ça qui
la colère, contre l'auteur.
Non, le lieu. Non, surtout d'abord le lieu. C'est-à-dire, c'est là que j'ai envie d'être.
Oui. Un refuge, une forme de refuge.
On va voir.
Vous avez grandi dans un endroit assez particulier qui s'appelle les Murs Blancs, qui était cette propriété, ce domaine situé du côté de Châtenay-Malabry, dans la banlieue sud de Paris, où vivait, dans une forme de communauté, un groupe de familles, vous allez me corriger si je résume mal les choses, notamment autour d'Emmanuel Mounier, hein, penseur, fondateur de la revue Esprit. Il y avait donc là 5-6 familles réunies, parmi lesquelles la vôtre. Est-ce que, un endroit très, très particulier, très singulier, est-ce qu'il y avait des livres
partout,
dans cet endroit?
Ouais. Partout. Et le mieux, c'était quand je rentrais de l'école et que mes parents n'étaient pas dans leur bureau, car ils travaillaient dans le même bureau face à face, et que je pouvais me mettre dans le fauteuil et regarder les livres sans que personne voie ce que j'étais en train de regarder. Et il y a des livres partout, comme m'avait dit un copain, là, plus tard, quand on était des ados. Il me dit, chez toi, quand on ouvre les armoires, il y a des livres. Dans les autres familles, oui, c'était un peu ça, oui. Non, les livres sont des amis.
Et vous avez le souvenir
des amis, amis dans la solitude, pas dans le partage. C'est lié à la solitude, le livre.
C'est-à-dire que...
La solitude, c'est bien.
Oui, ça peut être très bien, la solitude. C'est-à-dire que vos parents ne vous lisaient pas d'histoire, par exemple, comme le font parfois les parents à leurs enfants.
On change de sujet.
Si vous le voulez, nous sommes dans votre bibliothèque. Moi, je suis ce dont vous avez envie de parler. C'est intéressant que vous mentionniez comme ça, comme image souvenir de vous liée à la lecture, l'image de vous, petite fille, face à une bibliothèque, précisément.
Oui.
C'était une image effrayante ou attirante?
Ni l'un ni l'autre. C'était juste le lieu, c'était mes interlocuteurs. Ou c'est plutôt eux qui me choisissaient comme interlocutrice. J'ai plutôt envie de le dire dans ce sens-là. Mmh. Et c'est comme ça que j'entendrai quand je serai ado les livres qui sont toujours dans un petit coin de ma bibliothèque. Il y a 5 livres que j'ai depuis la seconde, la classe de seconde, et qui sont tout le tournant d'entre 15 à 20 ans.
Alors c'était quoi ces livres-là?
Ben, des livres qui s'adressent à moi. Le professeur de français en seconde, Madame Mathé, elle s'appelait... Oui, c'est Marie Curie à Sceaux, nous a dit de lire Rilke, Lettre à un jeune poète. Et voilà qu'on me parle. On me parle. Entrez en vous-même. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité et vous serez dans une infinie solitude. J'ai toujours l'exemplaire de ma classe de seconde. Et puis après...
Les lettres à un jeune poète, juste pour préciser, c'est vraiment des lettres que le poète Rainer Maria Rilke adresse...
À un jeune poète qui lui a écrit. Et l'échange durera un certain temps, suffisamment pour que ça donne... Et notre professeur de français nous avait... Et quelqu'un m'a parlé à partir du livre. Mmh. C'est comme ça que ça a commencé. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est sous cet angle-là, c'est-à-dire que les livres me parlent. Et ça n'a pas changé. Après, dans l'année suivante, où je demande à... quitter cette fille et partir vers la vraie vie, c'est-à-dire dans un lycée mixte, beaucoup moins chic, Anthony, etc. Je découvre qu'il y a une autre culture est en train de se faire autour du cinéma. Et notamment, ils vont me raconter, les nouveaux copains, Chris Marker, Alain Resnais. Et qu'est-ce que c'est? Alain Resnais, c'est un documentaire qui s'appelle « Toute la mémoire du monde », qui est sur la Bibliothèque nationale. Je ne sais pas à l'époque, j'ai 16 ans, que je vais passer ma vie, et de longues années à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu notamment. Je ne le sais pas encore, mais « Toute la mémoire du monde », ça date de mes 16 ans. Et puis un autre livre qui est toujours dans les 5, là, au bout de la bibliothèque, c'est « Chris Marker, je vous écris d'un pays lointain ». Et je vous écris d'un pays lointain, voilà. Alors entre ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous, et les dernières lignes, alors c'est la Sibérie, le pays lointain, donc, et on l'appelle la Sibérie, entre le Moyen-Âge et le XXIe siècle, entre terre et lune, entre humiliation et bonheur. Dernière phrase du livre, ensuite, c'est tout droit. Donc voilà, il me donne une indication. Mmh. Je l'ai toujours, ce commentaire, si vous voyez l'état des livres, c'est un peu... Et donc voilà, ensuite, c'est tout droit. Donc, il m'a écrit de Sibérie pour me dire qu'ensuite, c'est tout droit. Et ça va m'aider énormément, ce genre de le fait qu'ils s'adressent à moi, les auteurs. Et je les crois. Et je trouve ça... c'est vraiment... C'est pour ça que je fréquente 2 siècles de textes. C'est parce qu'il me parle. Le troisième, c'est Louis Volson, Le schizo et les langues. Puisque je vais partir pendant mes études 1 an à Berlin. Enfin, une année universitaire, pardon, à Berlin pour ce qu'on appelait la maîtrise, qui est désormais le master. Je n'ai pas appris l'allemand au lycée, donc je l'apprends pendant les études supérieures et je vais me retrouver dans une langue étrangère. Et c'est à ce moment-là qu'est publié ce livre de quelqu'un qui quitte la langue maternelle parce que dans une autre langue, il sera mieux. Et j'ai absolument vécu mon rapport à l'apprentissage de l'allemand sur place et en vitesse, parce que c'était en plus sur l'école de Francfort.
Et pas forcément le domaine le plus facile pour dans la langue.
Dans aussi les textes philosophiques, ils sont beaucoup plus faciles que les textes littéraires, parce qu'il n'y a pas d'image, autant que dans les textes littéraires. Pour l'anglais, 20 ans plus tard, où je passerai 1 an aux États-Unis, ce sera pareil. Et du coup, vivre dans une autre langue est un moment absolument extraordinaire. Alors, est-ce que c'est quitter la langue maternelle ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, être dans une autre langue. Et c'est pour ça que j'ai gardé Le schizo et les langues. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée à l'époque. Voilà. Et puis, je ne les ai pas tous mis. Je pourrais mettre aussi Fritz Zorn, qui parle du cancer, des causes du cancer. Ça aussi, bien avant que je rencontre cette maladie un jour plus tard, j'étais très fascinée par sa recherche. Voilà. On pourrait, voilà, c'est tout.
Vous faites le lien d'une certaine manière en parlant de ces 5 livres découverts à l'adolescence entre ces lectures de jeunesse et votre bibliothèque physique aujourd'hui chez vous. On est ici en studio à Radio France, mais si vous deviez, Geneviève Reff, nous décrire la manière dont aujourd'hui les livres se présentent dans votre maison. Si on entre chez vous, c'est comment? Il y en a partout, c'est rangé, c'est pas du tout rangé, c'est un désordre organisé comme on dit parfois. C'est comment chez vous les livres?
C'est rangé. La seule pièce où il n'y en a pas, c'est la chambre. Donc partout, sinon, ils sont rangés par catégorie. Mais avant de parler de ces pièces où se trouve la répartition des livres, il ne faut pas oublier la cave. Il ne faut pas oublier non plus la maison de vacances. Où, entre autres, puisque vous parliez de mon enfance, j'ai entraîné beaucoup de livres au moment de la disparition de ma mère. Mais aussi des livres... dont je ne me servirai plus, ce qui concerne des périodes de ma vie, comme quand j'ai été professeur de philosophie, ou parlementaire européenne, ou les livres aussi de ce qui vient de ces fameux murs blancs, je sais pas, les œuvres complètes d'Emmanuel Mounier, ou les livres envoyés à mes parents, sauf Ricoeur, qui lui est resté à Paris.
Ricoeur, hein, donc qui faisait partie, la famille Ricoeur faisait partie de ces familles aux murs blancs.
Mais non, c'est simple, tout au fond, le plus loin... C'est l'histoire de la pensée féministe. Là, j'ai un fond que j'ai accumulé avec l'âge que j'ai, absolument formidable. Chaque fois que je dois préparer quelque chose, j'y trouve ce que je cherche. Et une deuxième pièce, il y a plutôt la philosophie, qui va renvoyer non seulement à mes études, mais en plus aux copains, à mes collègues, à toutes sortes de choses comme ça, que je garde précieusement si j'en ai besoin. Les autres choses partent. Quand j'en ai plus besoin, les autres choses partent.
Ah, vous savez vous débarrasser
Je ne me débarrasse pas, ils partent en vacances.
Ah oui, d'accord, ils partent dans un autre lieu.
Dans un autre lieu. Ouais. Et puis, ce qu'il y a dans la pièce où je travaille, ça c'est assez curieux, c'est en préparant l'émission que je m'en suis vraiment rendu compte. D'abord, il y a tout ce qui concerne l'histoire de l'art et la question qui me touche. Par exemple, dans l'histoire de l'art, moi j'ai 3 livres qui sont là aussi au bout d'une étagère. C'est Brancusi, Goya, Zaouki. Ça, c'est des images aussi de ma formation, de ma jeunesse, ou même de mon enfance pour Zaouki. Et puis ensuite, les livres d'art concernant beaucoup la question évidemment aussi de l'histoire des femmes artistes. Et puis, je me suis aperçue d'une chose que je savais très bien, les usuels. J'ai un rapport aux usuels qui vient justement de ma fréquentation de la Bibliothèque nationale. J'ai commencé donc à fréquenter assidûment à partir de 77. Et là... J'en ai récupéré beaucoup chez ma mère. Et
Des usuels, c'est-à-dire des dictionnaires.
Des dictionnaires, des vocabulaires. J'ai un dictionnaire de la rhétorique, j'ai un dictionnaire de citation, j'ai plein de dictionnaires de philosophie, y compris les Lalande et Foulquier de ma classe de terminale. J'ai la psychanalyse, l'étymologie, le cinéma, le théâtre, la mythologie. Et les 6 volumes du Larousse du XXe siècle, que j'ai caressé du regard absolument toute ma jeunesse et que j'étais trop contente de récupérer. Je m'en sers plus parce que Internet me permet d'aller beaucoup plus vite. Mais je ne m'en séparerai pas.
Oui.
Parce que c'est comme un socle. Et j'en ai beaucoup d'histoire de l'art, d'histoire de la littérature. Parce que ma mère, comme professeure de lettres, en avait beaucoup. Donc j'y ai tenu spécialement. Et je pense que quand j'étais à la Bibliothèque nationale, dans la grande salle où on était installé en tant que lecteur-lectrice, il y avait un bord où il y avait les usuels, ça s'appelait. J'aime beaucoup ce mot. Et j'ai moi-même après participé à la rédaction de certaines notices pour des dictionnaires des intellectuels ou dictionnaires Larousse ou ceci ou cela. Mais ça a eu une vertu qui est celle de toute la mémoire du monde dont parle René, quoi. C'est-à-dire que la question, de l'infini, vous savez... J'avais noté il y a très 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 longtemps une expression de Baudelaire dont j'aurais volontiers fait un titre, mais je ne l'ai pas encore fait, qui est dans Les Damnés, EES, hein, donc dans Les Fleurs du Mal, et où il parle des chercheuses d'infini. Voilà, je crois que les usuels, c'est ce qui me permet d'être une chercheuse d'infini. Et j'aime ça.
En vous écoutant, Geneviève Fraisse, je pensais que c'est joli, c'est l'importance pour vous de ces livres qu'on dit usuels. Est-ce que ça veut dire que, de façon générale, les livres pour vous, aujourd'hui, ça représente avant tout ces objets dont vous avez eu et dont vous continuez d'avoir l'usage pour votre pensée, tout simplement?
Mais non, mais les livres, c'est les mots, c'est tout. C'est les mots, mais c'est pas les mots abîmés par le langage quotidien ou par les affects à n'en plus finir des humains. Ils sont dépouillés de certains affects pour en produire d'autres, évidemment. Ça me plaît, oui.
Cette fréquentation commune des textes de grands poètes, de grands philosophes, ça a toujours été, ou depuis, disons, très longtemps, en parallèle pour vous, dès vos plus jeunes années, vous lisiez aussi bien de la philosophie,
tout. Oui, tout. Et ça, c'est la chance de la génération qui est la mienne, celle des 68ards. C'est-à-dire qu'on a traversé les frontières des disciplines. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec les historiennes, tout en étant philosophe. On passait d'un monde à l'autre. J'étais beaucoup dans le monde du théâtre aussi, cartoucherie, Tête du Soleil, etc. Et donc, on traverse. Et c'est pas du tout gênant, c'est bien.
On va aller vers l'évocation des livres que vous avez choisi de sortir de votre bibliothèque pour nous, Geneviève Fraisse. Et puisque nous sommes chez vous, pour nous y emmener, on va écouter une musique que vous aimez. Vous nous avez dit l'écouter en ce moment. C'est la chanteuse et pianiste de jazz américaine Shirley Horn. Puisqu'il est question de l'amour des livres, de la lecture dans cette émission, donc de l'amour tout court, on écoute I Just Found Out About Love. I just found out about love and I like it. I like it. I like what love has been doing to me. I hold you close in my arms and I like it. I like it. Oh, what a wonderful future I see. It's a one time only. It's a lifetime deal. Thank you. Nous arrivons dans le deuxième moment de cette émission Geneviève Fraisse, où nous sommes plongés dans votre bibliothèque. On vous a, comme à tous nos invités pour cette série d'émissions, demandé d'élire entre tous 5 livres, 5 textes, pour en partager la lecture d'un extrait avec nous. Avant qu'on plonge dans ces textes, peut-être un petit mot sur la manière dont vous avez opéré ce choix. Est-ce que ça a été difficile? Quels critères vous vous êtes fixés pour choisir seulement 5 livres parmi vos livres, qui sont nombreux, on l'a compris?
Parce qu'ils partent de l'interpellation, le premier texte qu'on va prendre. Donc encore une fois, on me parle. Et puis finalement, pour arriver à la question de l'écriture et du concept, ce qui est, finalement résume un parcours. Mais c'est un choix difficile, oui, il y a plein d'autres livres que j'aurais pu prendre, bien sûr.
Bon, alors on va commencer ce parcours en respectant l'ordre que vous nous avez indiqué, qui est un ordre quasi chronologique, et on s'est dit que c'était pas anodin. Est-ce qu'on s'est trompé?
Non, mais il n'y a même pas besoin de dire quasi, c'est chronologique.
C'est chronologique, voilà. Et donc le premier auteur de ce parcours chronologique, c'est Choderlos de Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses. Vous avez choisi un texte qui date de 1783, c'est-à-dire un an après la parution du fameux roman épistolaire et 6 ans avant la Révolution française. C'est un discours, en réalité, écrit en réponse à une question de l'Académie de Châlons: quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes? Un texte que vous avez préfacé pour les éditions des Équateurs en 2018, préface reprise dans votre dernier livre que je mentionnais tout à l'heure, L'égalité sans retour. Avant de nous lire un extrait du début de ce texte, peut-être vous pouvez nous dire, Geneviève Fraisse, à quel moment de votre parcours de pensée vous le rencontrez, ce texte-là?
C'est parce que ce texte est connu par ailleurs à propos du consentement. À propos de la question du consentement.
Question à laquelle vous avez consacré
oui, et d'autres que moi
des
aussi.
Années 2000.
D'autres que moi aussi sur ce texte de Laclos, qui était notamment cité bien plus tôt. Pour ma part, ce que j'ai pris dans son texte du consentement, qui n'est pas la même chose que le préambule dont je vais lire un extrait, c'est que quand il dit « la première femme qui consentit forgea les chaînes de tout son sexe ». Donc cette espèce de point de départ qui est aberrant en même temps, qui est formel et pas réel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de passer de quelque chose qui serait aussi bien réel que formel. Et puis, j'avais pas vraiment fait attention au préambule. Et puis quand j'ai trouvé le préambule, effectivement, je m'y suis intéressée.
Bon, alors on vous écoute lire ce préambule.
Donc c'est pour répondre à la question proposée par l'Académie de Châlons sur Marne pour le perfectionnement de l'éducation des femmes. Je viens dans cette assemblée respectable, consacrée à la vérité plus respectable encore, une voix faible, mais constante, et que n'altérera ni la crainte de déplaire, ni l'espoir de réussir. Tel est l'engagement que je contracte en ce jour. Le premier devoir qu'il m'impose est de remplacer par une vérité sévère une erreur séduisante. Il faut donc oser le dire. Il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Cette assertion paraîtra téméraire, et déjà j'entends autour de moi crier au paradoxe. Mais souvent le paradoxe est le commencement d'une vérité. Celui-ci en deviendra une si je parviens à prouver que l'éducation prétendue donnée aux femmes jusqu'à ce jour ne mérite pas, en effet, le nom d'éducation. Ô femmes, approchez et venez m'entendre. Que votre curiosité dirigée une fois sur des objets utiles contemple les avantages que vous avez donnés la nature et que la société vous a ravis. Venez apprendre comment née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Comment tomber dans cet état abject, vous êtes parvenue à vous y plaire et à le regarder comme votre état naturel. Comment enfin dégrader de plus en plus par votre longue habitude de l'esclavage. Vous en avez préféré les vies avilissants, mais commodes aux vertus plus pénibles d'être libre et respectable. Pas très gentil, hein? Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire, puisqu'elle dépend de votre courage en elle vraisemblable. Je me tais sur cette question, mais jusqu'à ce qu'elle soit arrivée, et tant que les hommes régleront votre sort, je serai autorisée à dire, il me sera facile de prouver qu'il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation. J'aime la radicalité de ce texte. J'aime le lire, je ne vous le cache pas. Parce que c'est un an après avoir publié Les Liaisons dangereuses. Bon, on peut se référer à la lettre 81 des Liaisons dangereuses, où il explique tout le fonctionnement de Madame de Merteuil de manière comme ça, aussi à distance, et c'est assez intéressant. Mais là, on a à la fois cette capacité à interpeller. Il interpelle et la société d'académique qui propose ce sujet, et son lecteur, et la femme lectrice que je suis, qui fait le rapport entre esclavage et éducation, qui sera un des grands thèmes que j'ai beaucoup travaillé dans mon livre « Muse de la raison » autour des lendemains de la Révolution française et de la suite, sur la question de la raison des femmes.
Oui.
Est-ce qu'on y a droit ou pas? Et lui, il met les pieds dans le plat, quoi, en 83.
Et avec un art de l'éloquence et du mouvement de pensée, ce qui est, on l'a très bien entendu dans votre lecture rapide et vive, Geneviève Fraisse, ce texte, il commence par cette espèce de manière de réfuter la question, d'une certaine manière, de dire, mais enfin, la question à laquelle il répond hein, dans ce discours, quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes? Il commence par dire, mais cette question est nulle et non avenue, tant que les femmes seront en esclavage, on ne peut pas poser la question
et c'est pour
de
ça
cette
qu'il,
manière.
C'est pour ça qu'il dit que c'est un paradoxe. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup le paradoxe, de mettre paradoxe face à vérité, parce que c'est la question de la contradiction. Et c'est ça que je vais rencontrer tout au long de mes travaux, tout le temps. C'est la question de la contradiction de l'émancipation des femmes, avec beaucoup de problématiques extrêmement subtiles, épistémologiquement parlant. Et lui le dit à sa façon. C'est lui qui inaugure, pour moi, l'idée de la contradiction.
Et le paradoxe, qui est l'une des, comment dire, l'un des procédés, l'un des outils, l'une des matières même de la philosophie.
Et puis d'accès,
au fond.
Et de ce qu'il appelle l'accès à la vérité.
Est-ce que Laclos, à ce moment-là, en 1783, il est l'un des premiers à associer de cette manière très radicale, l'idée que les femmes sont en réalité dans un état, qui a trait à l'esclavage. Je rappelle que l'esclavage en France sera aboli en 1848 seulement. Hein.
Donc, il est d'abord aboli sous la Révolution française.
Oui, il est d'abord aboli sous
rétabli
la Révolution.
Par Napoléon.
Absolument. Puis, définitivement aboli, pardon, en 1848. Tout ça pour dire que c'est une réalité tout à fait tangible au moment où il écrit ces lignes. Est-ce que cette radicalité-là, il est le premier ou l'un des premiers à l'incarner?
Vous savez, puisque dans ce livre, il y a aussi mon texte sur l'âme de Gouge, l'âme de Gouge va dénoncer l'esclavage avant la Révolution de 89 et avant son texte en miroir de la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, elle dénonce l'esclavage, elle aussi, avant 89. Elle et d'autres. Donc, je veux dire, c'est visiblement quelque chose qui monte en puissance sur le mode... On est dans le siècle des Lumières, on va y venir avec Germaine de Staël, et voilà, il y a quelque chose là qui s'impose à eux.
Ce qu'on entend dans...
Et puis le mot esclave va être extrêmement employé, c'est même problématique par rapport au débat d'aujourd'hui parfois, extrêmement employé sur cette période-là, jusqu'au début du 19e, c'est-à-dire que la femme comme esclave, ou l'esclavage, oui bien sûr, les métaphores circulent... ce que j'ai appelé par rapport aux catégories les amis de nos amis. On va dire la femme esclave, mais est-ce qu'on a le droit de la dire esclave quand l'esclave lui-même, etc., etc., c'est très subtil.
Quand on l'entend ce texte aujourd'hui, on a aussi l'impression qu'il est comme ça un peu prémonitoire d'une révolution toujours en cours aujourd'hui, en 2025, quand il dit « apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution », on ne peut pas ne pas entendre
tendre aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en effet, la sortie de l'esclavage de la part des femmes, elle passe par une révolution, mais non pas au sens d'un événement en un point T du temps, mais un mouvement révolutionnaire qui doit se poursuivre.
Et qui prend des formes de langage différents. Aujourd'hui, on ne dirait plus esclavage, mais la radicalité du propos que vous transmettez, elle est bien sûr la même, puisqu'on peut parler de MeToo comme une révolution, mais c'est plutôt pour faire surgir ce que, après Carole Patman, on peut appeler le contrat sexuel implicite qu'il y a sous le contrat social.
Ça nous fait une transition vers votre deuxième choix, Geneviève Fraisse, vous l'avez mentionné. Vous avez eu envie de nous lire un texte d'une autrice dont vous étudiez l'œuvre et la pensée depuis de très nombreuses années. Vous l'évoquiez déjà notamment dans votre livre « Les femmes et leurs histoires » en 1998.
Leur histoire, c'est pas leurs histoires.
Pardon, « Les femmes et leur histoire » en 1998, entre autres. C'est Germaine de Staël, femme de lettres, penseuse philosophe, femme de salon aussi, figure essentielle de la vie littéraire de son temps, née en 1766 et morte en 1817. Quelle place est-ce qu'elle occupe dans votre parcours intellectuel à vous? Pourquoi cet intérêt, voire peut-être cette passion pour elle, est depuis si longtemps?
Oui, alors en fait, les premières fois que je parle d'elle beaucoup, c'est dans Muse de la raison, sur lequel je vais revenir, qui est mon livre sur ce que j'appelle la démocratie exclusive, c'est-à-dire les lendemains de la Révolution française. Et il y a un chapitre sur les exceptions comme Madame de Staël et Constance de Salm, qui est une écrivaine absolument remarquable. Et donc, oui, elle va tellement m'accompagner que, par exemple, quand on organisera le volume 4 de l'histoire des femmes avec Michel Perrault, il faut mettre un texte au départ et un texte à la fin. Moi, je propose de prendre une partie de ce chapitre dont je vais parler, qui s'intitule « Des femmes qui cultivent les lettres » dans de la littérature que j'ai lue et relue avec des étudiants ou ailleurs, un nombre de fois considérable, car il dit beaucoup de choses. Et du coup, on en mettra un extrait au début de ce volume 4, c'est-à-dire celui du 19e siècle. Et après, le siècle est clôturé par Louis-André Salomé. Mais moi, j'avais posé Madame de Staël. Et comme j'avais raconté un jour la personne qui m'a envoyé vers Madame de Staël, que j'ai vue 3-4 fois dans ma vie parce qu'elle a soutenu ma candidature au CNRS, sans que je sois son élève ni son étudiante, c'est Claude Lefort, qui m'a dit, s'il y a quelqu'un que vous lisiez, madame, mademoiselle, c'est Germaine de Staël. J'ai dit, bien, j'y suis allée et je le regrette pas, je lui dois cette lecture. Des femmes qui cultivent les lettres, c'est un chapitre de la littérature qui est absolument... que j'aime, pourquoi? Parce que, pour continuer ce qu'on disait, c'est elle va se situer comme femme qui dit l'avant et l'après de la Révolution.
C'est-à-dire, c'est un texte de 1800. Hein.
Oui, ouais. Mais elle est extrêmement synthétique. Son écriture est extrêmement synthétique. C'est pour ça qu'elle me plaît aussi. C'est la façon dont elle écrit. Et là, dans ces femmes qui cultivent les lettres, qui évidemment me touchent, puisque c'est toujours la question de la raison. Hein, de quelle raison les femmes peuvent user, à quoi ont-elles accès ou pas. Ça dure du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, cette affaire d'accès à la raison. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et donc là, elle est dans cette, elle s'est analysée. Avec son écriture, elle s'est analysée. Et là, je lui en suis... je sais pas, ça m'intéresse. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, ce texte.
Bon, alors on va vous écouter le lire, chapitre 4, donc des femmes qui cultivent les lettres.
Il arrivera, je le crois, une époque quelconque, dans laquelle des législateurs philosophes donneront une attention sérieuse à l'éducation que les femmes doivent recevoir, aux lois civiles qui les protègent, aux devoirs qu'il faut leur imposer, au bonheur qui peut leur être garanti. Mais dans l'état actuel, elles ne sont pour la plupart ni dans l'ordre de la nature, ni dans l'ordre de la société. Je développerai les diverses causes de cette singularité. Je commence d'abord par examiner quel est le sort des femmes qui cultivent les lettres dans les monarchies et quel est aussi leur sort dans les républiques. Je m'attache à caractériser les principales différences que ces deux situations politiques doivent produire dans la destinée des femmes qui aspirent à la célébrité littéraire et je considère ensuite d'une manière générale quel bonheur la gloire peut promettre aux femmes qui veulent y prétendre. Dans les monarchies, elles ont à craindre le ridicule et dans les républiques, la haine. L'on ne pourrait craindre l'esprit des femmes que par une inquiétude délicate sur leur bonheur. Il est possible qu'en développant leur raison, on les éclaire sur les malheurs souvent attachés à leur destinée. Mais le même raisonnement s'appliquerait à l'effet des Lumières en général sur le bonheur du genre humain. Et cette question me paraît décidée. Mais néanmoins, depuis la Révolution, les hommes ont pensé qu'il était politiquement et moralement utile de réduire les femmes à la plus absurde médiocrité. Ils ne leur ont adressé qu'un misérable langage sans délicatesse, comme sans esprit. Elles n'ont plus eu de motif pour déployer leur raison. Les mœurs n'en sont pas devenues meilleures. On croit toujours que c'est les Lumières qui font le mal, et l'on veut le réparer en faisant rétrograder la raison. Le mal des Lumières ne peut se corriger qu'en acquérant plus de lumière encore. On est toujours dans la raison et l'éducation et le savoir.
C'est ce que vous disiez, Geneviève Fraisse, pour introduire le choix de ce texte. C'est une thématique que vous avez développée notamment dans ce livre qui s'appelle « Muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes en France ». Il y a quelque chose d'un peu paradoxal si on considère comme ça la trajectoire des femmes dans l'histoire. On peut dire qu'avant la Révolution, il y avait des femmes qui, par leurs conditions, étaient des exceptions, des femmes de lettres, des femmes artistes, des femmes qui écrivaient déjà. Et d'une certaine manière, ces exceptions étaient tolérées parce qu'elles restaient l'exception. Alors qu'après la Révolution, l'instauration, disons, de la démocratie, pour résumer les choses rapidement, l'idée de la démocratie, c'est que l'exception devient la règle. Et du coup, à partir de ce moment-là, les exceptions de ces femmes émancipées, si on peut dire, ou partiellement émancipées, deviennent une menace plus grande pour la plupart des hommes.
Entre autres, ce que j'ai développé, oui, dans... En fait, le premier sous-titre, c'était « Démocratie exclusive
». Oui.
Mais la collection Folio n'a pas voulu garder ce titre un peu énigmatique, peut-être on y reviendra. Mais surtout aussi, vous voyez, avant même qu'elle parle des Lumières, de la raison, et puis qu'elle compare surtout les femmes des lettres avant et après, il y a l'idée, sa première phrase, vous l'avez entendue, elles ne sont ni dans l'ordre de la nature, ni dans l'ordre de la société. Ça, c'est pas mal par rapport au débat nature-société, sexe-genre, etc., de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où elles sont. Et c'est là-dessus que elle s'arrête d'abord. Mmh. Où vais-je les placer? Et j'en profite, puisqu'il est question de bonheur dans les passages que j'ai. J'en profite pour faire une petite rectification de la part de ceux qui aiment citer une phrase de Madame de Staël qui s'appelle « La gloire et le deuil éclatant du bonheur ». Même Godard, tout le monde, cette phrase qu'on a entendue. Vous savez la citation exacte?
Non.
Pour les femmes, virgule, la gloire et le deuil éclatant du bonheur.
Ah oui, ça change un peu la perception.
C'est très intéressant quand même. Alors moi, mauvais esprit, évidemment, je rappelle la citation exacte. Mais l'universel masculin se l'est approprié. Et c'est important parce qu'il est question du bonheur et de la gloire, qui sont au cœur même d'un des regards que Germaine de Staël porte sur elle-même et sur le monde. Ni dans l'ordre de la nature, ni dans l'ordre de la société. Où est-ce qu'on va les mettre? Ces femmes d'exception qui deviennent possiblement la règle, comme vous le rappeliez juste avant.
Le troisième texte que vous avez choisi d'évoquer pour nous, Geneviève Fraisse, est signé d'une autrice, femme de science, philosophe, elle aussi féministe, au XIXe siècle, hein, on avance toujours dans notre petit parcours chronologique, qui reste encore aujourd'hui assez méconnue. Elle s'appelle Clémence Royer, elle était née en 1830, elle est morte en 1902, et on lui doit notamment la première traduction en français de L'origine des espèces de Darwin. Vous lui avez consacré un livre à cette femme, Geneviève Fraisse. Ce livre s'appelait Clémence Royer, philosophe et femme de science. Il a paru à La Découverte en 1984 et a été réédité en 2002. C'est dire qu'elle vous est chère depuis plusieurs années. Je me disais que pour une fois, peut-être vous pourriez nous lire son texte qui, à mon avis, tient tout seul, sans même nous dire pourquoi vous l'avez choisi. Et puis on en parle après, si ça vous va.
Bon, faisons cela. Philosophe et femme de science, c'est la qualité que le Larousse lui donne. C'est pas moi qui ai choisi les termes.
Que vous reprenez dans le titre de cet ouvrage.
Voilà. Donc c'est la préface à son roman qui s'appelle Les Jumeaux d'Hellas. On y reviendra. Je veux tout d'abord te déclarer lecteur. Voilà, donc elle s'adresse à moi encore, voilà. C'est ça qui me j'aime ça. Je te déclarer lecteur que ce livre est celui d'une rebelle. Et d'une rebelle qui le veut être, qui l'est plus dans sa pensée que dans ses actes, et qui te le paraîtra moins encore en ses pages qu'elle ne l'est par conviction et volonté. Beaucoup de gens veulent voir de nos jours qu'un roman ne soit d'aucun parti. C'est vouloir que ce qu'il écrive n'ait pas de conscience. On prétend que ce ne doit pas être un plaidoyer. Faut-il donc que le poète s'assimile au peintre qui représente les choses mais ne les juge pas? Les personnages que je te présente, lecteur, ne sont pas des portraits. J'avoue même que leurs originaux seraient pour la plupart impossibles à trouver. Ce sont des types dont l'époque me fournit les lignes principales et dans lesquelles, sur un fond réel, j'ai dessiné quelques traits de l'idéal sans qu'aucun d'eux, à mon avis, réalise complètement cet idéal lui-même, tel du moins que je le conçois, car chacun a le sien. Ce sont des personnages de transition. Mes personnages devaient donc être en partie fictifs, puisqu'ils appartiennent en majorité à l'avenir, plus qu'au présent. Le présent, nous le savons. Assez d'autres nous en ont montré la réalité navrante, juste dans ses plus poignants détails. Cette œuvre du réalisme était nécessaire, mais elle est faite. Il est temps maintenant de commencer un cycle nouveau et de faire sortir de ce qui est, ce qui doit être. Et alors, si vous me permettez, je vais ajouter un petit morceau d'un texte que j'ai mis dans mon livre, qui est son introduction à la philosophie des femmes, puisqu'elle donne un cours de philosophie uniquement pour les femmes à Lausanne en 1859. Et vous verrez que ça résonne avec. Au moment d'élever pour la première fois la voix devant vous, une double émotion m'agite, je souffre d'une double crainte. D'abord, je ressens ce trouble involontaire qu'éprouve tout orateur en abordant son auditoire. Et femme, j'ai de plus des préjugés à vaincre, des coutumes à enfreindre, puisque jusqu'à présent, presque partout, et surtout dans ce pays, l'enseignement oral supérieur a été jugé inaccessible aux femmes. J'ai à chercher moi-même mes mœurs oratoires, des habitudes de langage et des termes convenables à une femme devant un public, et je n'ai aucun précédent pour me servir de guide, de modèle. J'ai aucun précédent. À la fois, elle me parle lecteur, et puis là, quand elle prend la parole pour inaugurer un cours, elle dit « Voilà, je me présente devant vous ». Et le temps qu'il y a entre ce qu'elle a pu faire elle en 1860, puisque Les Jumeaux d'Hellas, c'est un roman de 64, mais écrit juste quelques années avant, et ça, et mon temps à moi, d'apprenti philosophe, puis de chercheuse en philosophie, en histoire, etc., il y a tout ce temps qui s'est passé, qui fait que, d'un côté, vous savez, elle a, je le cite très souvent, j'aime bien, il y a sur son papier en tête, sous son nom, il y a marqué « Je prends mon droit ». Non mais elle est gonflée.
C'est une très belle expression, par ailleurs. Je prends mon droit.
C'est-à-dire au moment où on est à vouloir faire changer les lois, qu'enfin le divorce peut être à nouveau possible, et la recherche en paternité, qui est le problème de ce... On ne parlera pas du roman, les jumeaux de Las. Je rêve que certaines de mes collègues en littérature s'emparent de ce roman, mais elles résistent, parce que je fais parfois du démarchage.
Mais alors justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce que moi, je confesse avoir découvert à la fois Clémence Royer et à la fois cet ouvrage, Les jumeaux de Las, à travers vous, livre qui est introuvable aujourd'hui, je crois, enfin, oui. Très 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 difficile à trouver. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, vous nous avez lu la préface donc de ce roman dans lequel elle développe comme ça cette très belle réflexion sur les personnages. Qu'est-ce que c'est ce roman? De quoi ça parle?
Alors, deux choses. Les jumeaux de Las, c'est deux fils naturels d'une reine, hein, et donc elle a une réflexion, sur l'égalité des sexes, mais surtout aussi contre la religion et contre le Vatican. Ce qu'elle dira d'ailleurs aussi dans sa préface à Darwin, par ailleurs très critiquée, à juste titre, hein, parce que quand on traduit sélection par élection, on est spencérienne, lamarckienne, je sais pas, mais certainement pas
Darwin. Sa préface à l'origine des espèces.
Ouais, cela dit, en revanche, elle dit avant tout le monde, ça met en cause la religion révélée. C'est les dernières lignes de sa préface. Et c'est ça que j'ai aimé, moi. Et c'est ça qu'il y a aussi dans les jumeaux de Las. C'est-à-dire que c'est une critique du Vatican, une critique des jésuites, du pouvoir de l'Église. Ce livre qui est imprimé en Belgique sera arrêté à la frontière et mis à l'index par Rome, ce roman. Oui, que j'ai, parce que j'ai fini par trouver un bouquiniste qui l'avait. Je ne sais où en France et je l'ai acheté. Mais il est absolument introuvable. Mais c'est intéressant parce que elle parle, je voulais insister là-dessus, sur les personnages de transition. C'est extrêmement important parce que ça vient de sa lecture, qu'elle soit darwinienne ou pas darwinienne, de ce qu'on appelle l'évolution. Parce que la critique de la religion, ça, vous savez qu'au XXe siècle, il y en a encore qui supporteront pas Darwin à cause de la mise en cause de la religion.
Jusqu'à
mais
nos jours.
Elle, ce qui m'intéresse plus, c'est quand elle parle des personnages de transition, parce que je dirais que ça me renvoie à ce que je vis moi, par rapport au féminisme de ma génération ou de ma vie, de mes décennies que j'ai vécues. C'est-à-dire, quand on se dit, tiens, mais pourquoi elle est à moitié de l'avenir et à moitié du passé? Des êtres hybrides, elle dit à un autre moment. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça nous permet, là encore, d'introduire la question de l'historicité. On peut avancer sur certains points et ne pas avancer sur d'autres. Donc j'aime beaucoup son expression « personnage de transition ». En même temps, quand elle dit « je suis une rebelle, mais peut-être pas tant que ça », ou en tout cas « je le suis plus que ce que vous croyez », c'est pour ça que je cite d'autres textes, pour voir que chaque fois, elle prend des positions fortes.
Et comment vous la rencontrez? Comment vous découvrez ces textes?
La bibliothèque Marguerite Durand. Quand j'ai en 73 franchi la porte de la bibliothèque Marguerite Durand,
à l'époque
c'était en face des grands hommes, maintenant c'est dans le 13e arrondissement.
Bibliothèque consacrée à l'histoire des femmes.
Oui, que Marguerite Durand a fondée au début des années 30, et c'était simplement parce que la bibliothécaire, qui était très esselée à l'époque, personne n'allait danser, m'avait dit vous avez fait des études de philosophie, puisque je commençais mon année de stage de prof de philo, vous avez fait des études de philosophie, alors je vais vous montrer une philosophe, mais elle n'était pas assez gauchiste pour moi. Donc je me suis penchée vers les femmes de 1848, qui étaient plus en accord avec ce que j'avais vécu les années précédentes. Et du coup, je l'ai retrouvée et je l'ai honorée quand moi je suis rentrée au CNRS en 83. C'est pour ça que j'écris ce livre, rendre hommage à une autodidacte, quelqu'un qui n'a pas eu les moyens de vivre de son travail, quand moi je rentrais au CNRS et que j'allais être payée pour travailler sur la pensée féministe, et que je trouvais que c'était hallucinant de... cet entrechoc entre deux histoires à 150 ans d'écart.
Et ça
m'a beaucoup... je voulais lui rendre hommage, oui.
Le quatrième texte que vous avez choisi de partager avec nous, Geneviève Fraisse, a à voir avec l'essence, ou peut-être plutôt la matière même de votre pratique, la philosophie. C'est un extrait du premier chapitre du fameux livre des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?», livre paru en 1991 aux éditions de Minuit. Livre qui peut se lire comme une introduction à la philosophie, et premier chapitre qui s'intitule tout simplement « Qu'est-ce qu'un concept ?», Deleuze et Guattari choisissant de commencer par là, par une réflexion sur ce qu'est le concept, l'outil par excellence du philosophe, ou ce qu'il n'est pas, peut-être. Avant que vous nous lisiez ce texte, je vous propose qu'on écoute Gilles Deleuze dans une archive qui date de 1987. Il intervenait à la FEMIS, l'école de cinéma, sur le thème « Qu'est-ce que l'acte de création ?» et parlait justement du concept. On l'écoute.
Alors, ce serait trop facile de dire « Ben oui, la philosophie, tout le monde sait qu'elle est prête à réfléchir sur n'importe quoi. » C'est une idée indigne. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. En traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sûre, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça. On ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout.
Le concept est un incorporel, bien qu'il s'incarne ou s'effectue dans les corps. Mais justement, il ne se confond pas avec l'état de choses dans lesquelles il s'effectue. Il n'a pas de coordonnées spatio-temporelles, mais seulement des ordonnées intensives. Il n'a pas d'énergie, mais seulement des intensités. Le concept dit l'événement, non l'essence ou la chose. Le concept est donc à la fois absolu et relatif, relatif à ses propres composantes, aux autres concepts, au plan sur lequel il se délimite, au problème qu'il est censé résoudre. Enfin, le concept n'est pas discursif, et la philosophie n'est pas une formation discursive, parce qu'elle n'enchaîne pas des propositions. C'est la confusion du concept et de la proposition qui fait croire à l'existence des concepts scientifiques. On nous enferme sans cesse dans des alternatives entre propositions, sans voir que le concept est déjà passé dans le tiers exclu. Le concept n'est nullement une proposition. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être étudiante au temps où, quand Guilhem finissait ses cours à la Sorbonne, et j'ai eu la chance donc de l'avoir comme professeur, philosophe des sciences, parce que ça vient de lui, l'histoire du concept. Les cahiers pour l'analyse mettent quand même aussi toujours sur la page de gauche de la couverture, travailler un concept, c'est du camp Guilhem, c'est en faire varier l'extension et la compréhension, le généraliser par l'incorporation des traits d'exception, l'exporter de sa région d'origine, etc., etc. Et ce petit morceau de camp Guilhem a fondé mon idée que je pouvais travailler sur la pensée féministe, trouver les concepts. Et c'est ce que j'essaye de faire, que ce soit le service, le consentement, etc. Et surtout, par exemple, si je prends Muse de la raison, quand il dit « c'est pas une proposition », que fait-on de ce titre Muse de la raison ? Muse de la raison, c'est l'expression que le frère d'André Chénier, Marie-Joseph Chénier, attribue à Constance de Salm, donc contemporaine de Germaine de Staël. Mais ça n'existe pas, la Muse de la raison. C'est un concept, Muse de la raison. Et qu'est-ce qui se passe ? On me dit « ton livre sur la Muse de la raison ». Non. Je fais pas un livre sur les femmes de la Révolution. Je fais pas un livre sur une héroïne de la Révolution. Je vous sors un concept. Il n'y a pas de Muse de la raison. Que veut-on faire avec ça? Et c'est exactement ce que j'ai tenté de faire dans mes travaux. J'appelle maintenant une conférence que je fais tous ces temps-ci l'urgence des concepts. C'est ça qui m'intéresse. Et c'était un concept, Muse de la raison. Quand on vient mettre des articles, donc singulier au pluriel, je me dis, mais non, erreur.
Un contresens. Muse de la raison, qui est donc le titre, hein, je le rappelle, on en a parlé
livre.
Tout à l'heure, mais
oui.
de l'un de vos livres, voilà, oui. qui a fait date un peu dans
mon histoire déjà.
Oui, dans votre histoire à vous, dans votre parcours intellectuel, et dans une compréhension aussi de l'histoire de la pensée féministe.
Et aussi avec les historiennes, puisque ça sort au pile au moment où on est en train de rédiger les 5 volumes de l'histoire des femmes. Et moi, je suis donc co-éditrice du volume 4. Donc, c'est au cœur même de l'écriture. Mais voyez, du coup, la question est épistémologique, et c'est ça que Camp Guilhem m'a appris. Quand j'ai mon livre Les excès du genre, c'est pour dire c'est un concept, donc on va pas dire les genres, parce qu'on va retomber sur homme-femme, masculin-féminin, féminin-masculin, femme-homme, etc. Donc là, c'est ce qu'ils disent dans ces textes, quand Guilhem et Deleuze, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Et aussi grâce à eux, sans doute, bien sûr.
Pour ce livre-là, puisque j'abordais un thème qui m'était très cher et qui m'était particulièrement, disons, inconnu dans la littérature, il fallait qu'il y ait une référence par rapport à moi-même, à l'auteur du livre, enfin, qu'il y ait, même si c'était symboliquement, une implication de la part de l'auteur du livre. Et donc, je ne pouvais pas écrire avec un autre pronom, que je. Et ce jeu, je ne pouvais pas l'écrire physiquement. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas écrire physiquement le jeu? Qu'est-ce qui se passe, etc. Puis alors j'avais des conclusions différentes. Je me disais, je suis schizo, pourquoi je suis schizo? Mais les femmes sont schizo. Et ça me rappelait très bien les trucs de Virginia Woolf, tu sais, dans la chambre à soi. Il n'y a pas un moment de sa vie où une femme se sente complètement étrangère à ce monde. Elle n'est plus dans cette civilisation, c'est comme si elle venait d'un autre monde. Elle est coupée en deux, elle dit même coupée en deux. Enfin, elle emploie tous ces mots-là pour désigner la même chose, si tu veux. Et je ne savais pas quoi faire avec ce jeu. Juste au moment où j'écrivais ce livre, il y avait des filles qui, dans mes groupes de travail, écrivaient jeu avec deux œufs. Ça, j'ai trouvé ça magnifique, j'aurais bien voulu l'avoir trouvé moi-même. Tu vois. Moi, j'en étais au jeu coupé. Je suis une femme, cette langue m'est étrangère.
La voix de Monique Wittig, Geneviève Fraisse, que l'on vous fait entendre, c'était un entretien accordé à Pascal Verneuil en 1973 sur France Culture, à propos de son livre « Le corps lesbien » et de l'usage de la langue et du pronom « je » de cette lutte avec l'impression d'écrire dans une langue étrangère. Ce, pour introduire le dernier texte que vous avez choisi de partager avec nous, un texte de Monique Wittig, donc, qui fut votre contemporaine, qui, comme vous, fit partie des militantes du mouvement de libération des femmes, le MLF, autrice notamment de ce merveilleux roman qu'est l'Opoponax, théoricienne, féministe, lesbienne. Vous avez choisi de nous lire un extrait d'un texte qui s'appelle « L'ordre du poème » qui figure dans ce recueil de textes paru l'an dernier aux éditions de Minuit, qui s'appelle « Dans l'arène ennemie », très beau titre, « Dans l'arène ennemie, texte et entretien 1966-1999 ». En l'occurrence, « L'ordre du poème », c'est une communication donnée, qu'elle a donnée en juillet 1989 au colloque de Cerisy-Lassalle qui portait sur l'œuvre de Nathalie Sarraute. Donc c'est un texte de Monique Wittig analysant, lisant Nathalie Sarraute. Pourquoi Monique Wittig et pourquoi ce texte-là, Geneviève Fraisse?
Alors Monique Wittig, parce que c'est une écrivaine. Je trouve qu'on a tellement focalisé sur la question du corps lesbien, etc., qu'il faut redonner une part à tout ce qui est sa réflexion sur l'écriture qui, moi, me passionne. Et l'extrait que vous venez de donner, j'aurais pu le choisir. Parce que tout sur la question du « je » et la question du « on » et la question de qui parle et de à qui on parle. Et alors là, elle s'en donne à cœur joie avec Nathalie Sarraute dans de nombreux textes. Je n'avais que l'embarras du choix, j'ai eu du mal, parce que elle, comment dire, c'est, elle voit en Nathalie Sarraute tout ce qu'il faut faire dans l'écriture. Et tout ce qui met à l'envers, ce qu'elle va appeler aussi le cheval de Troie. Mais j'aimerais bien revenir sur cette image qui est dans l'ordre du poème, parce qu'elle est compliquée. Là encore, il y a du paradoxe, comme dirait Lacour.
On vous écoute le lire et puis on va
donc,
détailler.
L'ordre du poème, d'abord c'est une citation de Virgile sur ce cheval haut comme une montagne, donc le cheval qui nous abattons nos murs, nous pratiquons une brèche dans les remparts de la ville. On sait que le cheval de Troie rentre dans Troie et pour donner place à des guerriers. Bon, bref. Mais elle dit... Qu'est-ce qu'une machine de guerre? Quoi? Est-ce une machine de guerre? Toute œuvre de forme nouvelle fonctionne comme une machine de guerre. Son sens est de démolir les formes vieillies, les règnes et les conventions. Tout travail littéraire important est au moment de sa production comme un cheval de Troie. Toujours il s'effectue en territoire hostile, dans lequel il apparaît étrange, inassimilable, non conforme. Puis sa force, sa polysémie et la beauté de ses formes l'emportent. La cité fait place à la machine dans ses murs. Il faut qu'elle soit adoptée pour accomplir son travail de minage et de sape des conventions littéraires et sociales et les dévoiler comme périmée, incapable d'opérer des transformations. Telle est l'œuvre de Sarraute auprès de laquelle je ne nommerai aucune autre. Et c'est vrai. Et chaque fois, alors on a que l'embarras du choix, hein. On a tout ce qui concerne les mots. Elle dit ailleurs, le travail de l'écrivain à partir d'un corps solide composé de mots. Et c'est ça que moi aussi, quand j'ai lu Nathalie Sarraute, il y a longtemps, je ne l'ai pas relu récemment, je le regrette, mais c'est effectivement, c'est la question des mots. Donc il y a la question du sujet dont vous avez parlé, et surtout de l'interpellation aussi du lecteur. Et là encore, je retrouve ce que j'attends depuis le début, c'est qu'on me parle.
C'est l'adresse, en fait. Le fil rouge de tous ces textes, peut-être, c'est la question de l'adresse.
C'est exactement cela. Et alors, juste, peut-être pour finir, ce qui m'embête, c'est l'image du cheval de Troie. Parce que, au fond, oui, si elle parle de Proust, elle va dire « Personne s'est rendu compte de ce que Proust dit. » Donc le cheval de Troie, il y a bien à l'intérieur de son corps quelque chose que personne n'a vu et qu'on finirait quand même par voir. Mais elle dit tellement les choses que j'ai un sentiment un peu ambivalent sur son image du cheval de Troie. Elle n'arrête pas de nous développer ce qu'il y a dans le ventre du cheval de Troie.
Elle, Monique Wittig?
Monique Wittig.
Elle... Ouais,
non, Monique Wittig. Donc cette image de cheval de Troie, alors évidemment, si elle cite Virgile, on voit bien que c'est, il va abattre les murs, il va rentrer là où il ne devait pas rentrer dans la cité de Troie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son corps? Elle cache rien. Donc, si elle était là, mais bon, je suis quand même.
Mais le cheval de Troie, c'est une image qu'elle utilise pour parler davantage de Sarraute, me semble-t-il, dans ce texte-là.
Dans ce texte-là, oui, mais c'est une image très forte chez Wittig, l'image du cheval de Troie. Et en fait, rien n'est caché.
Oui.
Donc, je reste sur cette interrogation.
Ouais. Bah, on va rester sur cette interrogation pour finir cet entretien, Geneviève Fraisse, parce que l'heure a tourné. Je sais que vous vouliez, avant qu'on se quitte, évoquer une femme et autrice que vous avez bien connue et dont on a appris tout récemment la disparition.
Voilà, Cathy Bernheim, qui d'ailleurs était avec Monique Wittig au pied de l'Arc de Triomphe en août 70 pour déposer des fleurs pour la femme du soldat inconnu. Donc, moment fondateur du MLF, elle vient de disparaître. Je pensais à cette émission, à ce moment-là, et j'ai appris ça à 7h du matin, je me suis levée, je suis allée devant ma bibliothèque, je dis, je sors un livre de Cathy. Et le livre que j'ai sorti, ce sont pas Perturbation ma sœur, les chroniques du sexisme ordinaire, etc. C'est le livre qu'elle écrit en 2011 sur Hippolyte Bernheim. Hippolyte Bernheim, elle est là, son arrière-petite nièce, et c'est le neurologue, penseur de l'hypnose, au même moment que Freud, fin 19e, être qu'elle va rechercher tout d'un coup, et elle écrit ce livre, et en dehors de ça, de l'hypnose, etc., j'ai retrouvé le petit mot qu'elle met sur un exemplaire, elle dit « une vie un peu apprise, un peu rêvée ». En fait, elle veut déchiffrer une trace de son histoire, et elle se fabrique ce que j'appelle une lignée familiale, alors qu'elle était dans cette... comment dire, subversion de la généalogie familiale. Et en fait, cet homme qui développait l'idée de l'hypnose, et ce qu'elle met là entre le rêve et la trace, je sais pas, c'est quelque chose, apprendre, rêver, etc., qui la caractérisait.
Merci beaucoup. On pense à Cathy Bernheim. Je signale en passant que je sais qu'il existe des archives qui ont été rediffusées dans les Nuits de France Culture où on l'entend. Elles sont toujours disponibles en ligne, j'en suis certaine. On mettra en référence sur la page de l'émission ces entretiens où on peut écouter sa voix pour mieux aller la relire et ce livre-là notamment. Merci beaucoup Geneviève Fraisse. Très grand merci Geneviève Fraisse de nous avoir fait visiter votre bibliothèque aujourd'hui. Je rappelle le titre de deux de vos derniers ouvrages, L'égalité sans retour, paru l'an dernier, et Le féminisme, ça pense, tous deux parus aux éditions du CNRS. Et puis on indiquera bien sûr sur le site de l'émission les autres références de vos livres et des textes que nous avons cités aujourd'hui dans cette émission. À la réalisation, c'était Cassandre Puel, au son Ludovic Auger et Mineta Diawara. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Lou Quevauvillé, Marianne Chasson, Jeanne Aléos, Léa Weiss-Grus, Louise Hott et Alexandra Laïbegovitch. Cette émission, comme toutes les autres, se réécoute et se télécharge sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.
Où sort à danse, au vento, no seu cabelo, luar, encanta, perfume, a noite inteira, meu passo, a sua dança, a noite inteira. Jogar flores no mar, deixa ela te levar. Eu vou rezar. Meu passo. A sua
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.